Bonsoir. Lundi 30 avril dernier, la RDC a commémoré la journée nationale de l'enseignement avec comme thème « Œuvrons tous pour la qualité de l'enseignement ». À cette occasion, dans une cérémonie officielle, les représentants des élèves ont plaidé notamment pour une bonne prise en charge de leurs enseignants, mais aussi pour un meilleur ravitaillement de leurs écoles en matériel didactique. Quelle analyse faire de la problématique de l'enseignement en RDC? C'est la question de l'émission et nous sommes ici au studio avec Gaston Moussemena. Il est ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Bonsoir, monsieur le ministre Gaston Moussemena.
Bonsoir, monsieur le journaliste.
Cécile Kiyombo, secrétaire générale du syndicat des enseignants du Congo, SIECO en sigle. Bonsoir, madame Cécile Kiyombo.
Bonsoir, monsieur le journaliste.
Et Joseph Godet Kayembe, président du conseil d'administration de la Ligue de la zone Afrique pour la défense des droits des enfants et des élèves, l'ISADEL en sigle. Bonsoir, monsieur Joseph Godet Kayembe.
Bonsoir.
Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Le 30 avril est retenu pour célébrer la Journée nationale de l'enseignement. Les thèmes choisis pour cette édition œuvront tous pour la qualité de l'enseignement. À Kinshasa, cette fête a été marquée par un défilé de toutes les divisions de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel en présence du ministre des tutelles Gaston Moussemena. Paul Matendo était de la partie.
Ambiance festive. Toutes les divisions de l'EPSP ont répondu présentes à l'invitation du ministre des tutelles. Parmi les invités, des élèves des écoles de Kinshasa. Beaucoup d'entre eux demandent au gouvernement une bonne prise en charge de leurs enseignants afin, disent-ils, de les amener à assurer un enseignement de qualité.
Les enseignants ne sont pas bien payés. Et nous pouvons encore dire au ministre de motiver les enseignants pour que les enseignants puissent bien nous encadrer, puissent bien nous donner le...
D'autres élèves interrogés plaident pour un ravitaillement de leurs établissements scolaires en matériel didactique.
Nous sommes venus célébrer la fête de l'enseignement avec notre cher Gaston Moussemena. Le message que je peux faire passer, si on peut nous ajouter aussi quelques matériels, cela nous aidera beaucoup.
Parmi ces élèves, d'autres souhaitent des échanges directs entre eux et le ministre de l'EPSP.
Et on a besoin que ceux-là qui sont à la maison viennent aussi étudier. C'est un problème, il faut parler avec lui, c'est bon de voir face à face et parler, aborder le sujet. Parce que comme ça, on s'est dit, on ne sait pas s'ils vont entendre ça.
Cette fête s'est clôturée par des rencontres sportives, dont un match de football entre deux équipes des élèves sourds-muets.
Merci à vous, Paul Matendo. Gaston Moussemena, ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Actualité oblige, les épreuves hors session de l'examen d'État 2018 ont débuté aujourd'hui sur toute l'étendue de la République. Comment cette dissertation s'est déroulée pour cette première journée?
Je dois d'abord commencer par vous dire merci pour nous avoir associés à cette émission. L'éducation, c'est l'affaire de tous. Voilà pourquoi déjà nous suggérons que tout le monde s'implique pour la qualité de notre enseignement. Vous parlez des épreuves hors session de l'examen d'État 2018. Je viens de quitter mon bureau parce que j'attendais les rapports de tous les centres. Je suis un homme erré. Je peux vous avouer que tous les 1964 centres ont travailler normalement, il n'y a pas eu d'incident majeur
avec combien d'élèves
au niveau de ces centres. Les 1964 centres ont été occupés par 678 348 apprenants ou élèves candidats. Voilà les nombres exacts de tous les candidats qui ont présenté les épreuves hors session. Je peux vous avouer que la situation sécuritaire a été très favorable à la présentation des épreuves hors session de ces jours. Et nous ne pouvons que remercier Dieu, nous ne pouvons que remercier notre gouvernement pour cette sécurisation de tous les centres.
Nous apprenons qu'il y a des élèves qui ont été foudroyés, n'est-ce pas? Évidemment, ça c'est un phénomène naturel.
Il y a deux situations que nous avons reçu comme rapport qui nous font un peu mal, mais c'est une situation qui ne relève pas de la responsabilité directe de l'État. C'est une situation, je dirais, naturelle. Que les enfants soient foudroyés, on ne sait pas prévenir cette situation. Ça s'est passé ici au Kwilu. Mais il y a une autre situation vers le Maïndombe, où j'attends tous les derniers rapports. Il y a des enfants qui ont failli mourir parce qu'ils prennent une pirogue pour aller au niveau du centre et une vingtaine ont été noyés, mais Dieu merci, on les a tous fait sortir de l'eau. Ils ont perdu leur objet classique, mais le gouverneur de cette province, Gentiline Ngobila, s'est mobilisé pour que ces enfants arrivent au niveau du centre et présentent leur examen. Les autres détails, j'aurai certainement, mais en tout cas, il n'y a pas eu de morts à ce qui concerne cette situation de noyade.
Merci. Nous venons de suivre ce reportage de notre collègue Paul Matendo sur la journée consacrée à l'enseignement. Les élèves se sont exprimés. Leurs préoccupations se résument notamment en ces recommandations. Que le gouvernement assure une bonne prise en charge de leurs enseignants. Que le gouvernement assure un ravitaillement de leurs établissements scolaires et matériels didactiques. Monsieur le ministre, une bonne prise en charge des enseignants passe notamment par une bonne rémunération. Pourquoi cette question? Le gouvernement semble ne pas avoir des réponses.
Je dois d'abord commencer par remercier ces enfants qui sont très intelligents et qui comprennent le fonctionnement de leur secteur, le secteur de l'éducation. Parce que nous parlons de la qualité. La qualité de l'enseignement répond à plusieurs critères. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs paramètres qu'il faut remplir pour obtenir cette qualité de l'enseignement. Et parmi les piliers, il y a d'abord l'État, au regard de toute sa responsabilité. Il y a aussi l'aspect des structures même de notre secteur éducatif. Il y a les parents qui doivent aussi intervenir pour assurer cette qualité de l'enseignement. Et je dirais clairement tous les partenaires qui interviennent au niveau de ce secteur. Vous avez épinglé un ou deux éléments qui doivent concourir à cette qualité, à savoir les bonnes conditions de travail. Ici, je globalise les bonnes conditions de travail pour les enseignants. L'État a l'obligation, non seulement pour les enseignants, mais pour l'ensemble de fonctionnaires, de donner un salaire adéquat à ces fonctionnaires, dont les enseignants.
L'État a l'obligation de donner un bon salaire. Mais pourquoi l'État semble ne pas avoir des réponses à cette question? Ça fait quand même des années que cette revendication est formulée par les enseignants, mais jusqu'à aujourd'hui, l'État semble ne pas trouver une solution adéquate.
L'État congolais est conscient de ses responsabilités et l'État sait qu'il doit donner un bon salaire aux enseignants. Les salaires des enseignants, comme les salaires de tous les fonctionnaires, dépend de la bonne, je dis bonne gouvernance, c'est bien, parce que c'est l'idée qui vous passe à l'esprit, mais aussi de bonnes finances du pays. La situation économique de notre pays à ces jours, la situation économico-financière, nous oblige à gérer de manière à résoudre tous les problèmes sans privilégier un seul secteur. Les difficultés économiques de notre pays font que l'État congolais ne soit pas encore à mesure de réaliser son rêve. Mais, vous le savez bien, l'État s'efforce pour améliorer le salaire de l'ensemble des fonctionnaires, parce que je ne vais pas me limiter seulement aux enseignants. À ce jour, puisqu'il faut parler de notre secteur, l'État est en train de continuer à fournir des efforts pour réduire considérablement le nombre des enseignants non payés. Parce que nous avons ce phénomène au niveau de notre fonction publique et plus particulièrement au niveau de notre secteur de l'enseignement. Il y a encore des enseignants qui travaillent, qui prestent, mais qui ne sont pas payés. Lorsque nous nous sommes rencontrés avec les banques syndicales, nous avons pu obtenir le paiement de 5 000 non payés aujourd'hui...
Sur combien?
On était à peu près à 144 000 non payés. À ce jour, nous sommes en train de travailler pour récupérer encore 7500 non payés et les efforts vont se poursuivre parce que c'était un engagement que nous avons pris avec nos partenaires du banc syndical. Chaque fois que nous aurons les moyens, nous les ferons. Donc la détermination de l'État est là et les gestes ont été compris par les partenaires parce que nous avons réalisé ce que nous avons promis.
Monsieur le ministre, une autre préoccupation, la Constitution à son article 43 alinéa 5 dit que l'enseignement primaire est obligatoire et gratuit dans les établissements publics. Peut-on dire que cette logique telle qu'énoncée dans la Constitution ne s'applique pas à ces millions d'enfants, n'est-ce pas, qui ne vont plus à l'école depuis plusieurs années par manque de moyens financiers dans ces pays?
Je confirme d'abord le prescrit de la Constitution parce que l'enseignement est réellement obligatoire, mais qu'en plus, lorsqu'il faut parler de la gratuité, au regard des difficultés dont j'en fais allusion, nous avons pensé commencer par pallier. Et à ce jour, nous appliquons la gratuité de la première année à cinquième primaire, mais pour les cycles supérieurs, c'est-à-dire sixième jusqu'au secondaire, c'est encore payant. L'idéal serait qu'on arrive à la gratuité totale. Mais tout dépend de la santé financière de notre pays.
Évidemment, même le terme gratuité aussi est interprété selon qu'on est parent et membre du gouvernement.
Je ne crois pas. Le terme gratuité devrait en principe être interprété de la même manière. Mais il y a des raisons qui font que les parents, devenus partenaires de l'éducation, interviennent directement, la loi l'a permis, interviennent directement pour soutenir les gouvernements.
Merci.
C'est cette situation-là qui fait que des gens interprètent d'une autre manière. Mais tout se fait dans mon secteur.
Merci.
Avec l'accord des parents. Sinon, rien ne sera fait.
Madame Cécile Kiyombo, secrétaire générale du syndicat des enseignants du Congo, SIECO en sigle, 30 avril, journée nationale de l'enseignement. Et au-delà des difficultés des enseignants auxquelles le gouvernement n'arrive pas à trouver des solutions, l'institution de cette journée comme journée, n'est-ce pas, pendant laquelle on doit célébrer l'enseignant, est-ce que l'institution de cette journée vous rassure quand même?
Vous savez, lorsque j'ai appris du thème de la journée, j'étais, vous allez m'excuser pour la voix, j'étais très contente par rapport au contenu même de ce thème. Mais lorsque j'ai décortiqué le thème, j'ai trouvé que les cinq doigts devaient se mettre ensemble pour œuvrer dans le sens de la qualité de l'enseignement en République démocratique du Congo. C'est là où je me suis dit, mais les éléments qui rentrent en compte, oui, l'État congolais est le premier responsable. Il est le premier responsable, mais et la qualité de l'enseignement dépend et pour la priorité et à ce qui concerne les enseignants membres du syndicat des enseignants du Congo dépend de la prise en charge correcte de ces derniers. Et pour ne pas parler seulement de ces enseignants membres et du SIECO, je parle des enseignants de la République démocratique du Congo, de la maternelle à l'université, puisque la qualité en dépend, la qualité et c'est ça ce qui va amener l'émergence. Mais lorsque dans ces systèmes de circularité, nous avons des éléments indignés, des éléments qui se mettent en dehors de ces systèmes, je pense que tous les systèmes est biaisé. Vous êtes d'accord avec moi, messieurs les journalistes, lorsque vous êtes dans une maison et qu'il n'y a que les papas qui disent que moi je dois manger, moi je dois bien m'habiller pour aller prester afin de vous amener le lendemain à manger. Il n'y a pas, il y aura mort. Il y aura mort d'homme dès lors que l'enfant tombe malade. La maman pose la question et au papa, mais l'enfant est malade, il n'y a pas de quoi acheter un comprimé d'aspirine. Le papa dit non, moi je dois d'abord manger, je dois d'abord avoir l'argent de transport. C'est là où je m'en vais dire que nous avons tous à mettre la main dans la pâte. Mais pour mettre la main dans la pâte, il faut que le ventre aussi de l'enseignant se gonfle. Mais comment le ventre de cet enseignant doit gonfler? C'est par rapport à un salaire décent que l'État congolais qui l'emploie doit l'octroyer. Vous savez, la rémunération, le salaire est la conséquence d'un travail bien fait. Mais moi, syndicat, je me dis, mais nous avons tous besoin d'un travail bien fait. Mais comment obtenir ce travail bien fait? Pour obtenir ce travail bien fait, il y a ceux qui disent qu'il y a des priorités. Oui, il y a des priorités, mais dans les cahiers de charges des syndicats de l'éducation nationale, la priorité, c'est le salaire. C'est le salaire qui fera de cet enseignant-là un syndicat d'antan. Mon ministre en face, il a toujours parlé de notre papa qui a fait de lui aujourd'hui ce qu'il est. Mais cet enseignant-là d'antan, mais pour que l'enseignant d'aujourd'hui redevienne cet enseignant-là, il serait mieux que l'État congolais pense à cet enseignant. Penser à cet enseignant, c'est le mettre au centre. Nous disons, l'école est une communauté. L'université est une communauté. Les ressources humaines, les services généraux de l'éducation est une communauté. Le ministère de l'éducation, et nous prenons tous les autres ministères. Il y a les professionnels, il y a la formation, il y a l'EPSP, il y a l'ESU, il y a la recherche scientifique. Tous ces systèmes mis ensemble dans un grand système font en sorte que lorsque l'enseignant de la maternelle à l'université est pris en charge correctement, lui octroyant un salaire décent, y afférant tous les avantages sociaux, je pense que c'est en ces moments-là que les cinq doigts pouvaient tenir un fer de barre dans la main et les broyer et arriver à l'émergence de notre pays.
Madame Cécile Thiombo, vous êtes syndicaliste, vous avez participé, n'est-ce pas, à toutes les concertations avec le gouvernement. Qu'est-ce que vous avez finalement compris? Pourquoi le gouvernement, comme vous le dites là, pourquoi le gouvernement ne pense pas aux enseignants?
Mais depuis toujours, ce n'est pas aujourd'hui que je suis syndicaliste, c'est depuis 18 ans que je suis dans ce système. La réponse du gouvernement congolais est toujours, les enseignants sont très nombreux. Mais c'est le secteur le plus grand, l'éducation nationale. C'est le secteur le plus grand et c'est le secteur qui renferme les atouts pour aider la République. Vous savez, le fait président Kasavubu avait dit que le développement de ces pays passe par l'éducation dans ces pays. Et que si le gouvernement n'en tient pas compte, je ne crois pas. J'ai eu à participer aux plusieurs négociations dans ces pays et chaque année. Mais peut-être l'année passée, l'année scolaire passée, au mois de septembre, c'était l'été, nous avons eu à signer un accord qui a trouvé tant soit peu quelques solutions y contenues, puisque les 30 000 prévus étaient payés, et les 5 000 enseignants NP étaient payés, et aussi les 200 millions à donner à la mutuelle des enseignants sont versés, mais il y a les additifs qui jusqu'au jour d'aujourd'hui sont bloqués par les ministères des Finances, puisque cet argent, les 200 millions pour les mois d'août, de septembre, les 25 000 août-septembre, les 5 000 novembre-décembre n'arrivent toujours pas. Mais cet argent a été ordonnancé puisque j'ai même accompagné la lettre de transmission pour les paiements de ce que je viens d'énumérer ici à la Banque centrale.
Madame, vous dites que le gouvernement utilise comme raison le nombre, n'est-ce pas, excessif des enseignants. Est-ce que vous avez les nombres globaux, les enseignants mécanisés et non mécanisés, ils peuvent être au nombre de combien à travers la République?
Les enseignants mécanisés et payés, ils sont au nombre de 375 000 enseignants. Les non payés, ils étaient à 1450 1445,33, on a eu à payer 5 000 et il nous est resté 1400,33 enseignants non payés et nous avons 150 000 enseignants NI. Les NI, ce sont les enseignants recrutés pendant plusieurs années et qui n'ont ni numéro matricule ni salaire. Ils se contentent peut-être de la prime des parents dans des écoles.
Voilà, on remarque depuis un certain moment un nombre important d'enseignants non qualifiés. Qu'est-ce qui peut justifier ces phénomènes?
Moi, je me dis peut-être, et mon ministre est là, ça sera peut-être une suggestion. Il y a ceux qui pensent que pour n'avoir pas mieux trouvé ailleurs, il faut aller dans l'éducation nationale. Et en ce moment-là, tous ces gens qui recrutent les enseignants non qualifiés, ils croient peut-être que l'éducation est une poubelle. Mais l'éducation n'est pas une poubelle. Lorsque quelqu'un va dans une option mécanique, technique électrique, ainsi de suite, ou informatique, lorsqu'il échoue, et il va se dire que je vais présenter l'examen d'état autodidacte en pédagogie. Il obtient ses diplômes. Il vient vite et vous allez voir celui qui le recrute dire c'est un pédagogue. Mais comment il devient pédagogue? Merci. Je sais que l'on apprend sur l'état, mais ce n'est pas dans l'enseignement qu'il faut venir apprendre sur l'état.
Merci Joseph Godet Kayembe, président du conseil d'administration de la Ligue de la zone Afrique pour la défense des droits des enfants et des élèves, l'ISADEL en sigle. Les problèmes qui touchent au secteur de l'enseignement sont multiples. Et on a l'impression que ce secteur est devenu un casse-tête, n'est-ce pas, pour les différents gouvernements qui se succèdent. Comment vous expliquez cela? Madame Cécile Yombo a rappelé la raison que pousse souvent le gouvernement en disant que les enseignants sont nombreux à travers le pays.
Merci beaucoup pour cette opportunité que vous me donnez de pouvoir m'adresser au public, aussi parler de la question de l'éducation. Cette question de l'éducation a fait l'objet même de la création de la LISADEL, parce que nous avions pensé qu'il faut qu'on trouve la solution au problème de l'avenir de notre République. L'enfant non formé ne peut pas permettre à ce qu'aucune fois qu'on puisse penser au développement ou à l'avenir de notre pays. Raison pour laquelle nous avons pensé qu'il faut mettre en place une institution qui peut lutter pour que l'enseignement soit accessible, soit gratuit, l'enseignement soit de qualité. Je voudrais ici, avant d'aborder la question, vous informer que, et d'ailleurs je l'ai dit toujours, que notre système éducatif, surtout l'enseignement primaire et secondaire, égorge beaucoup de faux enseignants, beaucoup de fausses écoles. Je vous donne avec beaucoup de précision, de manière technique. L'État congolais entre en programme d'ajustement structurel avec la Banque mondiale en 1984. Le budget de l'éducation qui était de 33% était ramené à 1%. Jusqu'en 2012, le budget de l'éducation n'a pas augmenté. Et à cette époque-là, le nombre d'enseignants était de 160 000 enseignants. Comment expliquer que dans un système où il n'y a pas eu d'investissement, de 84 jusqu'en 2012, aujourd'hui le nombre d'enseignants passe de 160 000 à 510 000 enseignants. Quelle magie! Ce nombre se multiplie par comment? Il n'y a pas eu d'investissement, il n'y a pas eu de nouvelles écoles. Qu'est-ce qui a fait que ce nombre puisse partir de 160 000 à 510 000 enseignants?
Mais le nombre d'élèves a augmenté.
Je vous en prie. Le nombre peut augmenter. Peut augmenter, mais avec les mêmes infrastructures. Parce qu'il n'y a pas eu d'école, l'État n'a pas construit des écoles pendant toute cette période. D'où vient que ce nombre-là augmente? Et ça, c'est la question que j'ai posée au ministre Macaire pour qu'il puisse faire l'audit du système. Et je reviens moi auprès du ministre pour lui demander de faire l'audit. On fait payer beaucoup d'argent à l'État pour rien. Il y a beaucoup de fausses écoles et de faux enseignants. Le vrai enseignant qui travaille ne sont pas payés. On les appelle les enseignants impayés. Mais vous verrez, beaucoup de personnes qui ont des écoles dans le sac sont ces gens-là qui reçoivent de l'argent de l'État. Et le ministre doit faire l'audit. On doit s'assurer combien d'écoles nous avons, combien d'enseignants et de vrais enseignants, pour que nous puissions, qu'on puisse régler le problème du système. Ça, c'est par rapport au nombre. Je reviens
Je demande au ministre, il est présent, de cesser de parler de la gratuité. Nos enfants ne vont pas à l'école. Aujourd'hui, les enfants orphelins ne vont pas à l'école. Les enfants des pauvres n'accèdent pas au système. Plus de 15 millions d'enfants ne vont pas à l'école. On parle de gratuité. Aujourd'hui, les enfants à l'école primaire payent le frais de l'État. On parle de 45 000 dans les usines où mes enfants, ils payent 43 000 francs à l'État. L'argent de l'État. Quand on parle de la gratuité, ça veut dire que les enfants sont exemptés de paiement. Mais les enfants payent à l'État qui est censé le prendre en charge. 43 000 francs. Le ministre parle de la gratuité. Cette gratuité va où? Vient d'où? Je suis étonné de constater que dans ce pays ici, on veut faire la politique avec les enfants. Excellence le ministre, c'est l'avenir de la République, l'avenir, notre avenir, ce sont nos enfants. Il faut protéger les enfants. Parce que si le lendemain, nos enfants ne seront pas compétitifs, le Congo sera vendu. Si quand même aujourd'hui, nous avons été formés, nous sommes incapables de tenir la pression internationale. Mais quand nous aurons les enfants qui n'auront pas étudié tous les Koulouna, et l'avenir de cette République sera comment? Et ça me dérange. Quand on parle de la gratuité d'enseignement, je vois qu'on dit qu'on y a de la gratuité, ça c'est se moquer de notre peuple. Et surtout, les enfants ont droit à l'éducation. L'État doit rendre l'enseignement gratuit, obligatoire, accessible. C'est-à-dire que lorsque le policier marche sur la route pendant les heures de cours, il trouve un enfant sur la route, il doit l'interpeller. Parce qu'il doit être à l'école. Mais les enfants, tous sont faits à la maison. Ils ne vont pas à l'école. L'État devient avoir honte.
Et quelle est la situation, M. Gaudier? Quelle est la situation des élèves dans des zones où l'insécurité sévit? C'est comme dans l'espace Kassai, dans le Tanganyika, dans le Nord Kivu à Beni et à Djougou. Quelle est la situation de ces élèves-là?
Ils sont que l'élève quand ils sont en déplacement. Il n'y a pas d'école. Les enfants sont insécurisés, sont en déplacement. Il y a des déplacements massifs de la population. Les enfants fuient avec leurs parents. Quel système éducatif? Ils étudient où? Quand les enfants sont en déplacement avec leurs parents, ils étudient où? Les enfants sont là. C'est comme dernièrement, lorsqu'il y a eu de la situation qui s'est passée au Kassai, on organise les examens d'État pour les enfants traumatisés. Je me suis posé la question, pour quels résultats? Les enfants traumatisés, vous allez les dire, bon, venez, vous allez faire l'examen d'État. Ça, c'est grave. Ça m'a choqué. Mais seulement, comme dans ce pays-ci, on ne sait pas qu'il y a des choses qu'on doit prendre au sérieux. Les enfants sont allés, ils ont fait les semblants des examens d'État. Mais en fin de compte, ils ont eu le papier, un papier qu'on appelle diplôme d'État, mais qui ne peuvent pas les servir. Parce que ce sont des personnes traumatisées. Je reviens à la question de qualité de l'enseignement. Comme on le dit, parce que c'était le sujet, c'est la qualité de l'enseignement. Depuis 1994, nous avons plaidé pour la gratuité de l'enseignement fondamental. L'État congolais a pris des engagements avec la communauté internationale pour rendre l'enseignement gratuit, obligatoire, accessible à tous les enfants. Depuis 1994. En 1997, nous avons convoqué un forum où on devait réfléchir comment rendre l'enseignement accessible à tous les enfants, comment créer les fonds additionnels. Nous avons pensé à mettre en place le fonds de promotion de l'éducation en 1997. Mais lorsqu'il fallait nommer les gens sur ce fonds, on a trouvé les gens. Et le fonds devient budgétivore. Il se retrouve au budget.
Les fonds existent et...
Il devient budgétivore.
Fonctionne.
Il commence à fonctionner sur le dos des parents. Sur le dos des enfants. Au lieu que ce fonds puisse chercher le moyen pour pouvoir contribuer à augmenter la cagnotte, devrait être alloué à l'éducation.
Merci.
Ce fonds devient budgétivore. Et je continue. Je suis en train de parler de la qualité de l'enseignement.
Nous allons vous redonner la parole pour ne pas monopoliser la parole, M. Gaudé Kayembe. Monsieur le ministre, nous allons écouter cette réflexion avec qui vient de Lubumbashi.
C'est Patrick Mbouli, Kassama depuis Lubumbashi, dans la province du Katanga. La dégradation de l'enseignement en RDC est consécutive à la dégradation des tissus économiques depuis presque 3 décennies. Et les différents gouvernements qui se succèdent, aucun d'eux n'a réformé le système éducatif corrompu que nous avons. Je crois que les efforts fournis actuellement pour améliorer la qualité de l'enseignement au Congo ne sont pas assez. Je pense que pour améliorer le système éducatif en RDC, il faut disponibiliser un budget important pour le secteur de l'enseignement et améliorer les conditions de vie des enseignants.
Monsieur le ministre Gaston Moussemena.
Je dois remercier l'intervenant de tout à l'heure. Il est conscient que les difficultés financières du pays ne permettent pas de maintenir et d'améliorer considérablement l'éducation. Mais nous, au niveau du gouvernement, nous avons la volonté de faire quelque chose malgré le faible moyen. Voilà pourquoi je voudrais quand même revenir un tout petit peu sur la qualité de l'enseignement quant aux réalisations de notre gouvernement. En dehors du fait qu'il faut améliorer le salaire, qui est considéré comme l'aspect social par excellence, il y a aussi les infrastructures scolaires qu'il faut améliorer. C'est-à-dire qu'il y a tout un programme pour la reconstruction des écoles et même les réhabilitations. Un programme qui est en cours, qui a...
Ça sera effectif quand?
Un programme qui a déjà commencé. Avec, le programme qui était reconnu comme le programme de 1000 écoles.
L'effet, c'est quoi aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des écoles qui sont en train d'être construites
beaucoup,
ou réhabilitées?
Beaucoup d'écoles.
Dans quelle ville, par exemple?
Dans tout le territoire de notre pays, il y a eu quelques écoles qui ont été construites et d'autres réhabilitées. Mais le programme a connu aussi la même situation de la crise. Ça n'a pas évolué, mais à ce jour, nous sommes en train de nous organiser au niveau du gouvernement pour reprendre ce programme qui était connu comme programme 1000 écoles. C'est un programme de la réhabilitation, de la reconstruction des infrastructures scolaires. Il y a aussi le souci de l'État de doter nos enfants de matériel didactique. Jusqu'à quand je suis arrivé, j'ai commencé par la distribution de matériel didactique. Je crois l'opinion a suivi. Le gouvernement s'efforce aussi pour améliorer la santé des enseignants, parce que pour qu'ils travaillent normalement, ils doivent être en bonne santé. Et madame l'a reconnu, madame Cécile Tshiombo l'a reconnu, que le gouvernement a accordé des fonds supplémentaires pour la mutuelle de la santé des enseignants. Nous sommes en train, en ce moment, de vouloir restructurer, de vouloir améliorer les conditions de travail au niveau de cette mutuelle de la santé, parce que tous les enseignants, où qu'ils se trouvent, doivent bénéficier des soins parce qu'ils ont les mêmes droits. Mais déjà aussi, au niveau des programmes, sur le plan pédagogique, nous devons comprendre qu'aujourd'hui, nous tournons vers le numérique. Beaucoup de choses sont en train de se faire ailleurs. Et lorsque mon frère Godet Kayembe a parlé, j'ai compris qu'il a intercepté les messages que le gouvernement a toujours lancés sur la compétitivité des enfants congolais.
Merci.
Nous devons faire en sorte que nos enfants aussi s'intéressent au numérique. Nous devons donc imposer le numérique. Voilà pourquoi nous sommes en train de faire...
Il faut investir dans l'éducation.
Absolument, on n'a pas de choix.
Merci.
Nous devons rester compétitifs.
Madame Cécile Tshiombo, il y a une réflexion à laquelle vous allez réagir, elle vient d'Isiro.
Je me viens à Chiro, on me dit où il est. Avec les priorités des écoles en RDC, l'enseignement a perdu son sens de formation, d'éducation de nos enfants. Mais l'enseignement est devenu un fonds de commerce pour les promoteurs et l'État congolais qui attire bénéfices par des taxes. À mon avis, célébrer le thème est beau tous. Pour l'enseignement de qualité, c'est ouvrir les enseignants sur leurs conditions de travail, car la qualité de l'enseignement va de pair avec les conditions de travail des enseignants. En bref, la qualité de l'enseignement passe d'abord par l'augmentation des rubriques budgétaires allouées à l'enseignement, ensuite la volonté politique et enfin le recyclage des enseignants.
Madame Cécile Tshiombo.
Je pense que l'enseignant a raison. Je venais de le dire, je venais de dire que le thème, j'étais très contente de ce thème. Je me suis réjouie, je me suis dit, voilà que ce thème rencontre mes sentiments. Mais il y a un problème. Le problème est que l'enseignant doit sortir de la pauvreté où il est. L'enseignant est dans un trou. L'enseignant ne sait pas nouer les deux bouts du mois. L'enseignant est le plus divorcé. Vous allez trouver la femme à Kasongolunda, le mari à Kasangulu et les enfants à Mboudi. Tout simplement puisque l'enseignant ne sait pas se payer un loyer. C'est un problème. Il y a le problème de budget alloué à l'éducation. Je pense que dans les années 60...
Qui est de combien aujourd'hui?
Mais aujourd'hui, il est de 0,6, je pense, si je ne m'abuse pas. Mais si on ne sait pas allouer un budget conséquent au système éducatif congolais...
Ça veut dire que l'enseignement n'est pas,
l'enseignement n'est pas pris en compte. Et pourtant, l'enseignement devait être la priorité des priorités dans ces pays. Nous voyons tout ce qui se passe. Je sais que les camarades viennent parler de la volonté politique. Oui, la politique ne peut faire que la volonté de celui qui dirige le gouvernement. Nous avons le gouvernement d'Union nationale, le gouvernement en place. Ce gouvernement était mis en place pour deux missions. La première était sociale et la deuxième était électorale. Mais nous avons tendance et nous constatons que le chef du gouvernement s'appuie beaucoup plus sur la mission électorale et la mission sociale est mise de côté. C'est là où je m'en vais dire que nous sommes tous en train de tuer cette éducation et que l'émergence et le développement et la paix durable souhaitée de tous n'est qu'un slogan.
Monsieur Godé Kayembe, nous allons écouter cette réflexion pour vous qui vient de Bukavu au sud Kivu.
D'ici, moi j'appelle à partir de la ville de Bukavu, province du sud Kivu. En analysant la situation du système éducatif en RDC, on constate avec beaucoup de regrets à cause de la prime que continuent à payer nos parents en dépit de l'article 43 de notre constitution et des bons discours de nos dirigeants, dont les cinq chantiers du président de la République. Depuis 2006, l'enseignement est devenu du business en RDC. Voilà pourquoi aujourd'hui, un seul bâtiment à travers la République est à la fois une école, une université, une église, un hôtel, un ganda, aux vies et aussi des autorités qui laissent fonctionner ces écoles qui ne remplissent aucune norme, étant donné que leurs enfants continuent à étudier en Europe. Peut-on dire que c'est une manière de nos autorités de vouloir tuer le pays, car dit-on, pour tuer un pays, il faut commencer par détruire son système éducatif.
Monsieur Joseph Ngodé Kayembe.
Oui, merci. Notre ami, il a pratiquement raison, parce que les Chinois disent pour détruire un pays, il faut commencer par détruire son éducation. Aujourd'hui, notre pays est au niveau où il est aujourd'hui à cause du fait que son système éducatif a été détruit et la destruction de ce système n'a pas commencé aujourd'hui, c'est a commencé depuis 1984. Et c'est là où j'ai dit que c'était un complot international parce que le système fonctionnait normalement et je l'ai dit toujours dans des grandes conférences que le système éducatif congolais fonctionnait normalement et à merveille parce que nous avions les meilleurs enseignants, les meilleures qualités. C'est en 1984, quand nous entrons en programme d'ajustement structurel avec la Banque mondiale, qui vient nous proposer des choses irréalisables, qu'aujourd'hui, le budget qui était de 33%, ramené à 1% par la Banque mondiale et FMI, que tout a été, il y a eu des bâcles, et dans le système éducatif, et dans le système de santé. Aujourd'hui, il est difficile pour nous, pour
ça
ce
fait,
pays.
Ça fait, vous avez parlé de 1984, ça fait maintenant 34 ans.
Alors,
pourquoi on n'arrive pas à solutionner ce problème?
S'il vous plaît, ils nous ont mis dans ce système. Ils ont endetté l'État jusqu'à ces niveaux, jusqu'à la moyenne de Pinière. L'État bloqué, il ne pouvait rien faire que toujours recourir à la Banque mondiale FMI. Un complot pour nous amener là où nous sommes aujourd'hui. Et j'ai dit que ce n'est pas un problème du gouvernement d'aujourd'hui, c'est un problème qui a daté de longtemps. Et je sais, je suis en train de me dire que si nous devons régler ce problème, il faut s'arrêter. Qu'est-ce que nous voulons faire de notre République? Qu'est-ce que nous voulons faire de nos enfants? Nous, on parle du budget de l'éducation. La qualité ne peut jamais s'améliorer quand on n'a pas amélioré le budget alloué au système. Aujourd'hui, l'État congolais, aucun État au monde, à ce jour, n'affecte pas moins de 20% du budget à l'éducation. Et déjà, l'État congolais affecte 15%, mais sur le plan d'effectivité, il libère 7-8% du budget. Donc ça fait qu'aujourd'hui, le ministre de l'EPSP, il est incapable de pouvoir payer les 160 000 enseignants parce que le budget même affecté officiellement, il ne touche pas cet argent. Et le ministre des Finances débloque que 40% ou 50% de ce que le ministre de l'EPSP devait avoir. Ça fait qu'aujourd'hui, il y a un déficit de 140 000 enseignants impayés. S'il débloquait, ne fût-ce que débloquer ça, il aurait déjà liquidé cette situation. Je vous informe que le Rwanda en face était en bas par rapport à l'éducation au Congo. Les Rwandais venaient étudier ici. Allez au Rwanda aujourd'hui.
Joseph Godé Kayembe, en plus du fait que on doit, n'est-ce pas, donner un budget consistant à l'enseignement, que faut-il pour améliorer la qualité de l'enseignement en RDC?
La première chose, il faut d'abord qu'on fasse d'abord l'audit du système. On doit savoir qui est enseignant, qui n'est pas enseignant. Quelles sont les écoles, quelles ne sont pas les écoles. On met fin à ça. On va réduire la charge de l'État. Deuxièmement,
on doit augmenter le budget de l'éducation. Le budget doit partir de cette, le vrai 8 qui débloque, 7 qui débloque à 30-40%. Parce que le Rwanda affecte 50% de son budget à l'éducation. Aujourd'hui, ils ont le meilleur système éducatif. Aujourd'hui, on donne à l'éducation 15%, on libère 8%. De quel budget d'ailleurs qui existe? Donc ça fait qu'aujourd'hui, nous avons les difficultés. Quand on dit que le pays, il y a des priorités, il n'y a pas une priorité au-dessus de l'éducation des enfants. Même dans la famille aujourd'hui, le papa préfère marcher pieds nus que ses enfants aillent à l'école. Donc ça veut être la même chose, la même attitude pour l'éducation nouvelle. L'argent devait être affecté à l'éducation. Les autres systèmes devaient pouvoir accepter de faire des concessions, de faire des sacrifices pour permettre aux enfants d'étudier parce que c'est notre avenir.
Merci, monsieur le ministre Gaston Moussemena. Que faut-il pour améliorer la qualité de l'enseignement en RDC? Vous avez dit que la volonté est là, n'est-ce pas? Mais on sait que la volonté se manifeste aussi à travers certains paramètres comme les budgets. Mais lorsque vous allouez à l'enseignement 0,1% du budget, vous pensez qu'on peut vraiment dire qu'il y a une certaine volonté de la part du gouvernement pour améliorer la qualité de l'enseignement en RDC?
J'aimerais quand même rectifier les choses. L'éducation, vous devez savoir que l'éducation constitue la priorité des priorités de notre gouvernement sous l'impulsion de notre chef de l'État, Joseph Kabila Kabange.
Parce que tout simplement,
globalement, le budget de l'éducation atteint 18% à ce jour. Et nous avons la prétention, nous l'avons annoncé.
Qui représente combien en termes chiffrés?
Faites les 18% de notre budget de l'État. On parle en termes de pourcentage pour montrer l'importance. Il y a beaucoup de ministères, mais l'éducation prend déjà 18% à ce jour. Et nous avons l'ambition d'atteindre 23,5% d'ici 2022. C'est l'ambition que nous avons tout simplement pour arriver à résoudre les différents problèmes parce que nous sommes conscients que c'est par l'éducation que nous allons provoquer l'émergence de notre pays parce que nous serons compétitifs et surtout que le monde évolue rapidement. Si on n'a pas de cadre de valeur, nous ne ferons rien.
Il faut auditer
les
systèmes.
Il y a des problèmes.
Je l'informe
qu'il y a un service spécialisé du ministère, le CECOP, qui est à mesure ou qui nous aide aujourd'hui à identifier des faux enseignants et des fausses institutions scolaires. La volonté de mieux faire est là et nous sommes en train de faire de notre mieux pour améliorer le système éducatif. Voilà pourquoi nous insistons sur la qualité en essayant de résoudre plusieurs paramètres dont le recyclage ou la formation des éducateurs, des enseignants, les contrôleurs, les inspecteurs. Nous sommes en train de lancer à ce jour un concours de recrutement des inspecteurs. C'est tout simplement pour que les inspecteurs qui constituent l'œil et l'oreille du ministère puissent nous aider à identifier les problèmes,
monsieur le ministre,
et proposer directement des solutions.
En conclusion, est-ce qu'on peut espérer par rapport à l'avenir de l'enseignement dans ce pays?
Nous devons espérer. Ce pays nous appartient. Il n'y a que les Congolais qui vont améliorer leur système éducatif. Il n'y a que les Congolais qui vont développer ce pays.
Merci.
Et ce pays ne peut être développé que par des cadres, par des jeunes qui ont été préparés, formés, conscient, nous y parviendrons.
Merci.
Nous n'avons pas de choix.
Madame Cécile Kiyombo, vous êtes syndicaliste. Que faut-il faire pour améliorer la qualité de l'enseignement en RDC? Ça sera sous votre conclusion.
Mais la qualité de l'éducation en dépend. Je pense que nous insistons ici sur l'augmentation du budget de l'éducation nationale en République démocratique du Congo qui passe par l'amélioration des conditions socio-professionnelles des enseignants à tous les niveaux. Il y a la prise en charge des enseignants par les parents qui doit être supprimée, ce système qui a aveli, ce phénomène qui a aveli le système éducation de l'éducation de notre pays. Et aussi les écoles privées qui naissent comme des champignons, qui doivent être contrôlées, et surtout ceux qui ne méritent pas, qui doivent être supprimés par rapport à la commercialisation de ce système.
Merci, monsieur Joseph Godekayembe, votre conclusion.
Je dis qu'on peut avoir l'espoir que lorsqu'on a déjà commencé à bâtir, rien n'a encore commencé. Le système descend en enfer. Il y a une descente en enfer.
Merci. Merci, nous sommes à la fin de l'émission. Merci à Polydor Obasunga qui était à la technique. Merci à Dona Madimba qui a réalisé cette émission sous la supervision de Pelé Kipela Mondo. À la présentation Guy Maté. Merci et bon suite au programme sur Radio Capi.